Consuelo, livre 1, chapitre 15. Comte, voyant que Consuelo était insensible à l'appât du gain, essaya de faire jouer les ressorts de la vanité et lui offrit des bijoux et des parures. Elle les refusa. D'abord, Giustiniani s'imagina qu'elle comprenait ses intentions secrètes, mais bientôt il s'aperçut que c'était uniquement chez elle une sorte de rustique fierté et qu'elle ne voulait pas recevoir de récompense avant de les avoir méritées en travaillant à la prospérité de son théâtre. Cependant, il lui fit accepter un habillement complet de satin blanc, en lui disant qu'elle ne pouvait pas décemment paraître dans son salon avec sa robe d'indienne, et qu'il exigeait que, par égard pour lui, elle quittât la livrée du peuple. Elle se soumit et abandonna sa belle taille aux couturières à la mode, qui n'en tirèrent point mauvais parti et n'épanièrent point l'étoffe. Ainsi transformée, au bout de 2 jours, en femme élégante, forcée d'accepter aussi un rang de perles fines que le comte lui présenta comme le paiement de la soirée où elle avait chanté devant lui et ses amis, elle fut encore belle, sinon comme il convenait à son genre de beauté, mais comme il fallait qu'elle le devînt pour être comprise par les yeux vulgaires. Ce résultat ne fut pourtant jamais complètement obtenu. Au premier abord, Consuelo ne frappait et n'éblouissait personne. Elle fut toujours pâle, et ses habitudes studieuses et modestes ôtèrent à son regard cet éclat continuel qu'acquièrent les yeux des femmes dont l'unique pensée est de briller. Le fond de son caractère, comme celui de sa physionomie, était sérieux et réfléchi. On pouvait la regarder manger, parler de choses indifférentes, s'ennuyer poliment au milieu des banalités de la vie du monde, sans se douter qu'elle fût belle. Mais que le sourire d'un enjouement qui s'alliait aisément à cette sérénité de son âme vint effleurer ses traits, on commençait à la trouver agréable. Et puis, qu'elle s'anima davantage, qu'elle s'intéressa vivement à l'action extérieure, qu'elle s'attendrit, qu'elle s'exalta, qu'elle entra dans la manifestation de son sentiment intérieur et dans l'exercice de sa force cachée, elle rayonnait de tous les feux du génie et de l'amour. C'était un autre rêve. On était ravi, passionné, anéanti à son gré, et sans qu'elle se rendît compte du mystère de sa puissance. Aussi, ce que le comte éprouvait pour elle l'étonnait et le tourmentait étrangement. Il y avait dans cet homme du monde des fibres d'artiste qui n'avaient pas encore vibré et qu'elle faisait frémir de mouvements inconnus. Mais cette révélation ne pouvait pénétrer assez avant dans l'âme du patricien pour qu'il comprît l'impuissance et la pauvreté des moyens de séduction qu'il voulait employer auprès d'une femme en tout différente de celle qu'il avait su corrompre. Il prit patience et résolut d'essayer sur elle les effets de l'émulation. Il la conduisit dans sa loge au théâtre afin qu'elle vît les succès de la corrille et que l'ambition s'éveillât en elle. Mais le résultat de cette épreuve fut fort différent de ce qu'il en attendait. Consuelo sortit du théâtre froide, silencieuse, fatiguée, et non émue de ce bruit et de ses applaudissements. La corrille lui avait paru manquer d'un talent solide, d'une passion noble, d'une puissance de bon aloi. Elle se sentit compétente pour juger ce talent factice, forcé, et déjà ruiné dans sa source par une vie de désordre et d'égoïsme. Elle battit des mains d'un air impassible, prononça des paroles d'approbation mesurées, et dédaigna de jouer cette vaine comédie d'un généreux enthousiasme pour une rivale qu'elle ne pouvait ni craindre ni admirer. Un instant, le comte la crut tourmentée d'une secrète jalousie, sinon pour le talent, du moins pour le succès de la prima donna. Ce succès n'est rien auprès de celui que vous remporterez, lui dit-il, qu'il vous serve seulement à pressentir les triomphes qui vous attendent, si vous êtes devant le public ce que vous avez été devant nous. J'espère que vous n'êtes pas effrayé de ce que vous voyez.
Non, seigneur comte, répondit Consuelo en souriant. Ce public ne m'effraie pas, car je ne pense pas à lui. Je pense au parti qu'on peut tirer de ce rôle, que la Corilla remplit d'une manière brillante, mais où il reste à trouver d'autres effets qu'elle n'aperçoit point.
Quoi ? Vous ne pensez pas au public ?
Non, je pense à la partition, aux intentions du compositeur, à l'esprit du rôle, à l'orchestre qui a ses qualités et ses défauts, les uns dont il faut tirer parti, les autres qu'il faut couvrir en se surpassant à de certains endroits. J'écoute les chœurs, qui ne sont pas toujours satisfaisants et qui ont besoin d'une direction plus sévère. J'examine les passages où il faut donner tous ses moyens, par conséquent ceux auxquels il faudrait se ménager. Vous voyez, monsieur le comte, que j'ai à penser à beaucoup de choses avant de penser au public, qui ne sait rien de tout cela et qui ne peut rien m'en apprendre.
Cette sécurité de jugement et cette gravité d'examen surprirent tellement Giustiniani qu'il n'osa plus lui adresser une seule question, et qu'il se demanda avec effroi quelle prise un galant comme lui pouvait avoir sur un esprit de cette trempe. L'apparition des deux débutants fut préparée avec toutes les rubriques usitées en pareille occasion. Ce fut une source de différends et de discussions continuelles entre le comte et Porpora, entre Consuelo et son amant. Le vieux maître et sa forte élève blâmaient le charlatanisme des pompeuses annonces et de ces mille vilains petits moyens que nous avons si bien fait progresser en impertinence et en mauvaise foi. À Venise, en ce temps-là, les journaux ne jouaient pas un grand rôle dans de telles affaires. On ne travaillait pas aussi savamment la composition de l'auditoire. On ignorait les ressources profondes de la réclame, les hâbleries du bulletin biographique, et jusqu'aux puissantes machines appelées claqueurs. Il y avait de fortes brigues, d'ardentes cabales. Mais tout cela s'élaborait dans les coteries, et s'opérait par la seule force d'un public engoué naïvement des uns, hostile sincèrement aux autres. L'art n'était pas toujours le mobile. De petites et de grandes passions, étrangères à l'art et au talent, venaient bien, comme aujourd'hui, batailler dans le temple. Mais on était moins habile à cacher ces causes de discorde et à les mettre sur le compte d'un dilettantisme sévère. Enfin, c'était le même fond, aussi vulgairement humain, avec une surface moins compliquée par la civilisation. Giustiniani menait ces sortes d'affaires en grand seigneur, plus qu'en directeur de spectacle. Son ostentation était un moteur plus puissant que la cupidité des spéculateurs ordinaires. C'était dans les salons qu'il préparait son public et chauffait les succès de ses représentations. Ses moyens n'étaient donc jamais bas ni lâches. Mais il y portait la puérilité de son amour-propre, l'activité de ses passions galantes et le commérage adroit de la bonne compagnie. Il allait donc, démolissant pièce à pièce, avec assez d'art, l'édifice élevé naguère de ses propres mains à la gloire de Corilla. Tout le monde voyait bien qu'il voulait édifier une autre gloire, et comme on lui attribuait la possession complète de cette prétendue merveille qu'il voulait produire, la pauvre Consuelo ne se doutait pas encore des sentiments du comte pour elle, que déjà tout Venise disait que, dégoûté de la Corilla, il faisait débuter à sa place une nouvelle maîtresse. Plusieurs ajoutaient « Grande mystification pour son public et grand dommage pour son théâtre, car sa favorite est une petite chanteuse des rues qui ne sait rien et ne possède rien qu'une belle voix et une figure passable. » De là, des cabales pour la Corilla, qui, de son côté, allait jouant le rôle de rival sacrifié et invoquait son nombreux entourage d'adorateurs, afin qu'ils fissent, eux et leurs amis,
justice des prétentions insolentes de la Zingarella, petite bohémienne. De là aussi des cabales en faveur de la Consuelo, de la part des femmes dont la Corilla avait détourné ou disputé les amants et les maris, ou bien de la part des maris qui souhaitaient qu'un certain groupe de don Juan vénitiens se serrât autour de la débutante, plutôt qu'autour de leurs femmes, ou bien encore de la part des amants rebutés ou trahis par la Corilla et qui désiraient de se voir vengés par le triomphe d'une autre. Quant aux véritables dilettanti di musica, ils étaient également partagés entre le suffrage des maîtres sérieux, tels que le Porpora, Marcello, Giomelli, etc., qui annonçaient, avec le début d'une excellente musicienne, le retour des bonnes traditions et des bonnes partitions. Et le dépit des compositeurs secondaires, dont la Corilla avait toujours préféré les œuvres faciles, et qui se voyait menacé dans sa personne. Les musiciens de l'orchestre, qu'on menaçait aussi de remettre à des partitions depuis longtemps négligées et de faire travailler sérieusement. Tout le personnel du théâtre, qui prévoyait les réformes résultant toujours d'un notable changement dans la composition de la troupe. Enfin, jusqu'aux machinistes des décorations, aux habilleuses des actrices et aux perruquiers des figurantes. Tout était en rumeur au théâtre San Samuel, pour ou contre le début. Et il est vrai de dire qu'on s'en occupait beaucoup plus dans la République que des actes de la nouvelle administration du doge Pietro Grimaldi, lequel venait de succéder paisiblement à son prédécesseur, le doge Luigi Pisani. Consuelo s'affligeait et s'ennuyait profondément de ses lenteurs et de ses misères attachées à sa carrière naissante. Elle eût voulu débuter tout de suite, sans préparation autre que celle de ses propres moyens et de l'étude de la pièce nouvelle. Elle ne comprenait rien à ces mille intrigues qui lui semblaient plus dangereuses qu'utiles, et dont elle sentait bien qu'elle pouvait se passer. Mais le comte, qui voyait de plus près les secrets du métier et qui voulait être envié et non bafoué dans son bonheur imaginaire auprès d'elle, n'épargnait rien pour lui faire des partisans. Il la faisait venir tous les jours chez lui et la présentait à toutes les aristocraties de la ville et de la campagne. La modestie et la souffrance intérieure de Consuelo secondaient mal ses desseins. Mais il la faisait chanter, et la victoire était brillante, décisive, incontestable. Anzoletto était loin de partager la répugnance de son ami pour les moyens secondaires. Son succès à lui n'était pas à beaucoup près aussi assuré. D'abord, le comte n'y portait pas la même ardeur. Ensuite, le ténor auquel il allait succéder était un talent de premier ordre, qu'il ne pouvait point se flatter de faire oublier aisément. Il est vrai que tous les soirs, il chantait aussi chez le comte, que Consuelo, dans les duos, le faisait admirablement ressortir, et que, poussé et soutenu par l'entraînement magnétique de ce génie supérieur au sien, il s'élevait souvent à une grande hauteur. Il était donc fort applaudi et fort encouragé. Mais après la surprise que sa belle voix excitait à la première audition, après surtout que Consuelo s'était révélé, on sentait bien les imperfections du débutant, et il les sentait lui-même avec effroi. C'était le moment de travailler avec une fureur nouvelle. Mais en vain Consuelo l'y exhortait et lui donnait rendez-vous chaque matin à la Corte Minelli, où elle s'obstinait à demeurer en dépit des prières du comte qui voulait l'établir plus convenablement. Anzoletto se lançait dans tant de démarches, de visites, de sollicitations et d'intrigues, il se préoccupait de tant de soucis et d'anxiétés misérables qu'il ne lui restait ni temps ni courage pour étudier. Au milieu de ses perplexités, prévoyant que la plus forte opposition à son succès viendrait de la Corilla, sachant que le comte ne la voyait plus et ne s'occupait d'elle en aucune façon, il se résolut à l'aller voir afin de se la rendre favorable. Il avait ouï dire qu'elle prenait très gaiement, et avec une ironie philosophique, l'abandon et les vengeances de Giustiniani, qu'elle avait reçu de brillantes propositions de la part de l'Opéra italien de Paris, et qu'en attendant l'échec de sa rivale, sur lequel elle paraissait compter, elle riait à gorge déployée des illusions du comte et de son entourage. Il pensa qu'avec de la prudence et de la fausseté, il désarmerait cet ennemi redoutable. Et, s'étant paré et parfumé de son mieux, il pénétra dans ses appartements, un après-midi, à l'heure où l'habitude de la sieste rend les visites rares et les palais silencieux. Chapitre 16. Il trouva la Corilla seule, dans un boudoir exquis, assoupie encore sur sa chaise longue, et dans un déshabillé des plus galants, comme on disait alors. Mais l'altération de ses traits au grand jour lui fit penser que sa sécurité n'était pas aussi profonde sur le chapitre de Consuelo que voulaient bien le dire ses partisans fidèles. Néanmoins, elle le reçut d'un air fort enjoué et lui frappant la joue avec malice. « Ah ah, c'est toi, petit fourbe !» lui dit-elle en faisant signe à sa suivante de sortir et de fermer la porte. « Viens-tu encore m'en conter? Et te flattes-tu de me faire croire que tu n'es pas le plus traître des conteurs de fleurettes et le plus intrigant des postulants à la gloire? Vous êtes un maître fat, mon bel ami, si vous avez cru me désespérer par votre abandon subi après de si tendres déclarations. » Et vous avez été un maître sot de vous faire désirer, car je vous ai parfaitement oublié au bout de 24 heures d'attente. » « 24 heures, c'est immense, » répondit Anzoletto en baisant le bras lourd et puissant de la Corilla. « Oh, si je le croyais, je serais bien orgueilleux. Mais je sais bien que si je m'étais abusé au point de vous croire lorsque vous me disiez... ce que je te disais... « Je te conseille de l'oublier aussi. Et si tu étais venu me voir, tu aurais trouvé ma porte fermée. Mais qui te donne l'impudence de venir aujourd'hui ? » « N'est-il pas de bon goût de s'abstenir de prosternation devant ceux qui sont dans la faveur, et de venir apporter son cœur et son dévouement à ceux qui... achèvent, à ceux qui sont dans la disgrâce ? C'est bien généreux et très humain de ta part, mon illustre ami. » Et la Corilla se renversa sur son oreiller de satin noir en poussant des éclats de rire aigus et tant soit peu forcés. Quoique la prima donna disgraciée ne fût pas de la première fraîcheur, que la clarté de midi ne lui fût pas très favorable et que le dépit concentré de ces derniers temps eût un peu amolli les plans de son beau visage, florissant dans bon point, Anzoletto, qui n'avait jamais vu de si près en tête-à-tête une femme si parée et si renommée, se sentit émouvoir dans les régions de son âme où Consuelo n'avait pas voulu descendre, et d'où il avait banni volontairement sa pure image. Les hommes corrompus avant l'âge peuvent encore ressentir l'amitié pour une femme honnête et sans art. Mais pour ranimer leur passion, il faut les avances d'une coquette. Anzoletto conjura les railleries de la Corilla par les témoignages d'un amour qu'il s'était promis de feindre et qu'il commença à ressentir véritablement. Je dis « amour » faute d'un mot plus convenable, mais c'est profaner un si beau nom que de l'appliquer à l'attrait qu'inspirent des femmes froidement provocantes comme l'était la Corilla. Quand elle vit que le jeune ténor était ému tout de bon, elle s'adoucit et le railla plus amicalement. « Tu m'as plu tout un soir, je le confesse, » dit-elle, « mais au fond, je ne t'estime pas. Je te sais ambitieux, par conséquent faux, et prêt à toutes les infidélités. Je ne saurais me fier à toi. Tu fis le jaloux une certaine nuit dans ma gondole. Tu te posas comme un despote. Cela m'eût désennuyé des fades galanteries de nos patriciens. Mais tu me trompais, lâche enfant. Tu étais épris d'une autre, et tu n'as pas cessé de l'être. Et tu vas épouser... qui, Oh, je le sais fort bien. Ma rivale, mon ennemie, la débutante, la nouvelle maîtresse de Giustiniani. Honte à nous deux, à nous trois, à nous quatre, ajouta-t-elle en s'animant malgré elle et en retirant sa main de celle d'Anzoletto. Cruel, lui dit-il en s'efforçant de ressaisir cette main potelée. Vous devriez comprendre ce qui s'est passé en moi lorsque je vous vis pour la première fois, et ne pas vous soucier de ce qui m'occupait avant ce moment terrible. Quant à ce qui s'est passé depuis, ne pouvez-vous le deviner, et avons-nous besoin d'y songer désormais ?
Je ne me paie pas de demi-mots et de réticences. Tu aimes toujours la Zingarella ? Tu l'épouses ?
Et si je l'aimais, comment se fait-il que je ne l'ai pas encore épousée ?
Parce que le comte s'y opposait, peut-être. À présent, chacun sait qu'il le désire. On dit même qu'il a sujet d'en être impatient, et la petite encore plus.
Le rouge monta à la figure d'Anzoletto en entendant ces outrages prodigués à l'être qu'il vénérait en lui-même au-dessus de tout.
« Ah, tu es outré de mes suppositions, » répondit la Corilla. « C'est bon, voilà ce que je voulais savoir. »
« Tu l'aimes.
Et quand l'épouses-tu ? »
« Je ne l'épouse point du tout. »
« Alors vous partagez ? Tu es bien avant dans la faveur de monsieur le comte. »
« Pour l'amour du ciel, madame, ne parlons ni du comte, ni de personne autre que de vous et de moi. »«
Eh bien, soit, » dit la Corilla. « Aussi bien à cette heure, mon ex-amant et ta future épouse. »
Anzoletto était indigné. Il se leva pour sortir. Mais qu'allait-il faire ? Allumer de plus en plus la haine de cette femme qu'il était venu calmer. Il resta indécis, horriblement humilié et malheureux du rôle qu'il s'était imposé. La Corilla brûlait d'envie de le rendre infidèle. Non qu'elle l'aimât, mais parce que c'était une manière de se venger de cette Consuelo qu'elle n'était pas certaine d'avoir outragée avec justice.
« Tu vois bien ?» lui dit-elle en l'enchaînant au seuil de son boudoir par un regard pénétrant. « Que j'ai raison de me méfier de toi, car en ce moment tu trompes quelqu'un ici. Est-ce elle ou moi ?»«
Ni l'une ni l'autre !» s'écria-t-il en cherchant à se justifier à ses propres yeux. « Je ne suis point son amant, je ne le fus jamais, je n'ai pas d'amour pour elle, car je ne suis pas jaloux du comte. »
En voici bien d'une autre. Ah, tu es jaloux au point de le nier, et tu viens ici pour te guérir ou te distraire ?
Grand merci. Je ne suis point jaloux, je vous le répète, et pour vous prouver que ce n'est pas le dépit qui me fait parler, je vous dis que le comte n'est pas plus son amant que moi, qu'elle est honnête comme un enfant qu'elle est, et que le seul coupable envers vous, c'est le comte Giustiniani.
« Ainsi, je puis faire siffler la Zingarella sans t'affliger. Tu seras dans ma loge et tu la siffleras, et en sortant de là, tu seras mon unique amant. Accepte vite, ou je me rétracte. »«
Hélas, madame, vous voulez donc m'empêcher de débuter, car vous savez bien que je dois débuter en même temps que la Consuelo. Si vous la faites siffler, moi qui chanterai avec elle, je tomberai donc victime de votre courroux. Et qu'ai-je fait, malheureux que je suis, pour vous déplaire ? Hélas, j'ai fait un rêve délicieux et funeste. Je me suis imaginé tout un soir que vous preniez quelque intérêt à moi, et que je grandirais sous votre protection. Et voilà que je suis l'objet de votre mépris et de votre haine, moi qui vous ai aimé et respecté au point de vous fuir. Eh bien, madame, contentez votre aversion. Faites-moi tomber, perdez-moi. « Fermez-moi la carrière, pourvu qu'ici, en secret, vous me disiez que je ne vous suis point odieux. J'accepterai les marques publiques de votre courroux. »«
Serpent que tu es !» s'écria la Corilla. « Où as-tu sucé le poison de la flatterie que ta langue et tes yeux distillent ? Je donnerais beaucoup pour te connaître et te comprendre. Mais je te crains, car tu es le plus aimable des amants ou le plus dangereux des ennemis. »
« Moi, votre ennemi, et comment oserais-je jamais me poser ainsi, quand même je ne serais pas subjuguée par vos charmes ? Est-ce que vous avez des ennemis, divine Corilla ? Est-ce que vous pouvez en avoir à Venise, où l'on vous connaît et où vous avez toujours régné sans partage. Une querelle d'amour jette le comte dans un dépit douloureux. Il veut vous éloigner, il veut cesser de souffrir. Il rencontre sur son chemin une petite fille qui semble montrer quelques moyens et qui ne demande pas mieux que de débuter. Est-ce un crime de la part d'une pauvre enfant qui n'entend prononcer votre nom illustre qu'avec terreur et qui ne le prononce elle-même qu'avec respect? Vous attribuez à cette pauvrette des prétentions insolentes qu'elle ne saurait avoir. Les efforts du comte pour la faire goûter à ses amis, l'obligeance de ces mêmes amis qui vont exagérant son mérite, l'amertume des vôtres qui répandent des calomnies pour vous aigrir et vous affliger, tandis qu'ils devraient rendre le calme à votre belle âme en vous montrant votre gloire inattaquable et votre rivale tremblante. Voilà les causes de ces préventions que je découvre en vous, et dont je suis si étonné, si stupéfait, que je sais à peine comment m'y prendre pour les combattre. Tu ne le sais que trop bien, langue maudite, dit la Corilla en le regardant avec un attendrissement voluptueux, encore mêlé de défiance. J'écoute tes douces paroles, mais ma raison me dit encore de te redouter. Je gage que cette Consuelo est divinement belle, quoiqu'on m'ait dit le contraire, et qu'elle a du mérite dans un certain genre opposé au mien, puisque le Porpora, que je connais si sévère, le proclame hautement. Vous connaissez le Porpora? Donc vous savez ses bizarreries, ses manies, on peut dire. Ennemi de toute originalité chez les autres et de toute innovation dans l'art du chant, qu'une petite élève soit bien attentive à ses radotages, bien soumise à ses pédantesques leçons, le voilà, qui, pour une gamme vocalisée proprement, déclare que cela est préférable à toutes les merveilles que le public idolâtre. Depuis quand vous tourmentez-vous des lubies de ce vieux fou? Elle est donc sans talent? Elle a une belle voix et chante honnêtement à l'église, mais elle ne doit rien savoir du théâtre. Et quant à la puissance qu'il y faudrait déployer, elle est tellement paralysée par la peur qu'il est fort à craindre qu'elle y perde le peu de moyens que le ciel lui a donnés. Elle a peur? On m'a dit qu'elle était au contraire d'une rare impudence. Oh, la pauvre fille! Hélas, on lui en veut donc bien. Vous l'entendrez, divine Corilla, et vous serez émue d'une noble pitié. Et vous l'encouragerez au lieu de la faire siffler, comme vous le disiez en raillant tout à l'heure. Ou tu me trompes, ou mes amis m'ont bien trompé sur son compte. Vos amis se sont laissés tromper eux-mêmes. Dans leur zèle indiscret, ils se sont effrayés de vous voir une rivale. Effrayés d'un enfant, effrayés pour vous. Ah, que ces gens-là vous aiment mal, puisqu'ils vous connaissent si peu. Oh! Si j'avais le bonheur d'être votre ami, je saurais mieux ce que vous êtes, et je ne vous ferais pas l'injure de m'effrayer pour vous d'une rivalité quelconque, fût-ce celle d'une Faustina ou d'une Molteni. Ne crois pas que j'aie été effrayée. Je ne suis ni jalouse, ni méchante. Et les succès d'autrui n'ayant jamais fait de tort au mien, je ne m'en suis jamais affligée. Mais quand je crois qu'on veut me braver et me faire souffrir... Voulez-vous que j'amène la petite Consuelo à vos pieds? Si elle l'eût osé, elle serait venue déjà vous demander votre appui et vos conseils. Mais c'est un enfant si timide. Et puis, on vous a calomnié aussi auprès d'elle. À elle aussi, on est venu dire que vous étiez cruelle, vindicative, et que vous comptiez la faire tomber. On lui a dit cela? En ce cas, je comprends pourquoi tu es ici. Non, madame, vous ne le comprenez pas. Car je ne l'ai pas cru un instant, je ne le croirai jamais. Oh non, madame, vous ne me comprenez pas. » En parlant ainsi, Anzoletto fit scintiller ses yeux noirs et fléchit le genou devant la Corilla avec une expression de langueur et d'amour incomparable. La Corilla n'était pas dépourvue de malice et de pénétration. Mais, comme il arrive aux femmes excessivement éprises d'elles-mêmes, la vanité lui mettait souvent un épais bandeau sur les yeux et la faisait tomber dans des pièges fort grossiers. D'ailleurs, elle était d'humeur galante. Anzoletto était le plus beau garçon qu'elle eût jamais vu. Elle ne put résister à ses mielleuses paroles. Et peu à peu, après avoir goûté avec lui le plaisir de la vengeance, elle s'attacha à lui par les plaisirs de la possession. 8 jours après cette première entrevue, elle en était folle et menaçait à tout moment de trahir le secret de leur intimité par des jalousies et des emportements terribles. Anzoletto, épris d'elle aussi d'une certaine façon, sans que son cœur pût réussir à être infidèle à Consuelo, était fort effrayé du trop rapide et trop complet succès de son entreprise. Cependant, il se flattait de la dominer assez longtemps pour en venir à ses fins, c'est-à-dire pour l'empêcher de nuire à ses débuts et au succès de Consuelo. Il déployait avec elle une grande habileté et possédait l'art d'exprimer le mensonge avec un air de vérité diabolique. Il sut l'enchaîner, la persuader et la réduire. Il vint à bout de lui faire croire que ce qu'il aimait par-dessus tout dans une femme, c'était la générosité, la douceur et la droiture. Et il lui traça finement le rôle qu'elle avait à jouer devant le public avec Consuelo, si elle ne voulait être haïe et méprisée par lui-même. Il sut être sévère avec tendresse. Et, masquant la menace sous la louange, il feignit de la prendre pour un ange de bonté. La pauvre Corilla avait joué tous les rôles dans son boudoir, excepté celui-là. Et celui-là, elle l'avait toujours mal joué sur la scène. Elle s'y soumit pourtant, dans la crainte de perdre des voluptés dont elle n'était pas encore rassasiée, et que, sous divers prétextes, Anzoletto sut lui ménager et lui rendre désirable. Il lui fit croire que le comte était toujours épris d'elle, malgré son dépit, et secrètement jaloux en se vantant du contraire. « S'il venait à découvrir le bonheur que je goûte près de toi, lui disait-il, s'en serait fait de mes débuts et peut-être de mon avenir, car je vois à son refroidissement, depuis le jour où tu as eu l'imprudence de trahir mon amour pour toi, qu'il me poursuivrait éternellement de sa haine s'il savait que je t'ai consolé. » Cela était peu vraisemblable au point où en étaient les choses. Le comte eût été charmé de savoir Anzoletto infidèle à sa fiancée, mais la vanité de Corilla aimait à se laisser abuser. Elle crut aussi n'avoir rien à craindre des sentiments d'Anzoletto pour la débutante. Lorsqu'il se justifiait sur ce point et jurait par tous les dieux n'avoir été jamais que le frère de cette jeune fille, comme il disait matériellement la vérité, il y avait tant d'assurance dans ses dénégations que la jalousie de Corilla était vaincue. Enfin, le grand jour approchait, et la cabale qu'elle avait préparée était anéantie. Pour son compte, elle travaillait désormais en sens contraire, persuadée que la timide et inexpérimentée Consuelo tomberait d'elle-même, et qu'Anzoletto lui saurait un gré infini de n'y avoir pas contribué. En outre, il avait déjà eu le talent de la brouiller avec ses plus fermes champions, en feignant d'être jaloux de leurs assiduités et en la forçant à les y conduire un peu brusquement. Tandis qu'il travaillait ainsi dans l'ombre à déjouer les espérances de la femme qu'il pressait chaque nuit dans ses bras, le rusé vénitien jouait un autre rôle avec le comte et Consuelo. Il se vantait à eux d'avoir désarmé, par d'adroites démarches, des visites intéressées et des mensonges effrontés, la redoutable ennemie de leur triomphe. Le comte, frivole et un peu commère, s'amusait infiniment des contes de son protégé. Son amour-propre triomphait des regrets que celui-ci attribuait à la Corilla par rapport à leur rupture, et il poussait ce jeune homme à de lâches perfidies, avec cette légèreté cruelle qu'on porte dans les relations du théâtre et la galanterie. Consuelo s'en étonnait et s'en affligeait. « Tu ferais mieux, lui disait-elle, de travailler ta voix et d'étudier ton rôle. Tu crois avoir fait beaucoup en désarmant l'ennemi, mais une note bien épurée, une inflexion bien sentie, ferait beaucoup plus sur le public impartial que le silence des envieux. C'est à ce public seul qu'il faudrait songer, et je vois avec chagrin que tu n'y songes nullement.
Sois donc tranquille, chère Consuelita, lui répondait-il. Ton erreur est de croire à un public à la fois impartial et éclairé. Les gens qui s'y connaissent ne sont presque jamais de bonne foi, et ceux qui sont de bonne foi s'y connaissent si peu qu'il suffit d'un peu d'audace pour les éblouir et les entraîner.
Chapitre 17. La jalousie d'Anzoletto à l'égard du comte s'était endormie au milieu des distractions que lui donnaient la soif du succès et les ardeurs de la corrida. Heureusement, Consuelo n'avait pas besoin d'un défenseur plus moral et plus vigilant. Préservée par sa propre innocence, elle échappait encore aux hardiesses de Giustiniani et le tenait à distance, précisément par le peu de soucis qu'elle en prenait. Au bout de 15 jours, ce roué vénitien avait reconnu qu'elle n'avait point encore les passions mondaines qui mènent à la corruption, et il n'épargnait rien pour les faire éclore. Mais comme, à cet égard même, il n'était pas plus avancé que le premier jour, il ne voulait point ruiner ses espérances par trop d'empressement. Si Anzoletto l'eût contrarié par sa surveillance, peut-être le dépit l'eût-il poussé à brusquer les choses. Mais Anzoletto lui laissait le champ libre. Consuelo ne se méfiait de rien. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de se rendre agréable en attendant qu'il devînt nécessaire. Il n'y avait donc sorte de prévenance délicate, de galanterie raffinée dont il ne s'ingénia pour plaire. Consuelo recevait toutes ses idolâtries en s'obstinant à les mettre sur le compte des mœurs élégantes et libérales du patriciat, du dilettantisme passionné et de la bonté naturelle de son protecteur. Elle éprouvait pour lui une amitié vraie, une sainte reconnaissance. Et lui, heureux et inquiet de cet abandon d'une âme pure, commençait à s'effrayer du sentiment qu'il inspirerait lorsqu'il voudrait rompre enfin la glace. Tandis qu'il se livrait avec crainte, et non sans douceur, à un sentiment tout nouveau pour lui, se consolant un peu de ses mécomptes par l'opinion où tout Venise était de son triomphe, la corrida sentait s'opérer en elle aussi une sorte de transformation. Elle aimait, sinon avec noblesse, du moins avec ardeur. Et son âme, irritable et impérieuse, pliait sous le joug de son jeune Adonis. C'était bien vraiment l'impudique Vénus, éprise du chasseur superbe, et pour la première fois humble et craintive devant un mortel préféré. Elle se soumettait jusqu'à feindre des vertus qui n'étaient point en elle, et qu'elle n'affectait cependant point sans en ressentir une sorte d'attendrissement voluptueux et doux. Tant il est vrai que l'idolâtrie qu'on se retire à soi-même pour la reporter sur un autre être élève et ennoblit par instant les âmes les moins susceptibles de grandeur et de dévouement. L'émotion qu'elle éprouvait réagissait sur son talent, et l'on remarquait au théâtre qu'elle jouait avec plus de naturel et de sensibilité les rôles pathétiques. Mais comme son caractère et l'essence même de sa nature étaient pour ainsi dire brisés, comme il fallait une crise intérieure violente et pénible pour opérer cette métamorphose, sa force physique succombait dans la lutte. Et chaque jour, on s'apercevait avec surprise, les uns avec une joie maligne, les autres avec un effroi sérieux, de la perte de ses moyens. Sa voix s'éteignait à chaque instant. Les brillants caprices de son improvisation étaient trahis par une respiration courte et des intonations hasardées. Le déplaisir et la terreur qu'elle en ressentait achevaient de l'affaiblir. Et à la représentation qui précéda les débuts de Consuelo, elle chanta tellement faux et manqua tant de passages éclatants que ses amis l'applaudirent faiblement et furent bientôt réduits au silence de la consternation par les murmures des opposants. Enfin, ce grand jour arriva, et la salle fut si remplie qu'on y pouvait à peine respirer. Corrida, vêtue de noir, pâle, émue, plus morte que vive, partagée entre la crainte de voir tomber son amant et celle de voir triompher sa rivale, alla s'asseoir au fond de sa petite loge obscure sur le théâtre. Tout le banc et l'arrière-banc des aristocraties et des beautés de Venise vinrent étaler les fleurs et les pierreries en un triple hémicycle étincelant. Les hommes charmants encombraient les coulisses, et, comme c'était alors l'usage, une partie du théâtre. La dogaresse se montra à l'avant-scène avec tous les grands dignitaires de la République. Le porpora dirigea l'orchestre en personne, et le comte Giustiniani attendit à la porte de la loge de Consuelo qu'elle eût achevé sa toilette, tandis qu'Anzoletto, paré en guerrier antique avec toute la coquetterie bizarre de l'époque, s'évanouissait dans la coulisse et avalait un grand verre de vin de Chypre pour se remettre sur ses jambes. L'opéra n'était ni d'un classique, ni d'un novateur, ni d'un ancien sévère, ni d'un moderne audacieux. C'était l'œuvre inconnue d'un étranger. Pour échapper aux cabales que son propre nom, ou tout autre nom célèbre, n'eût pas manqué de soulever chez les compositeurs rivaux, le porpora, désirant avant tout le succès de son élève, avait proposé et mis à l'étude la partition d'Hypermnestre, début lyrique d'un jeune Allemand qui n'avait encore en Italie, et nulle part au monde, ni ennemi ni séide, et qui s'appelait tout simplement M. Christophe Gluck. Lorsque Anzoletto parut sur la scène, un murmure d'admiration courut dans toute la salle. Le ténor auquel il succédait, admirable chanteur, qui avait eu le tort d'attendre pour prendre sa retraite que l'âge eût exténué sa voix et enlaidi son visage, était peu regretté d'un public ingrat. Et le beau sexe, qui écoute plus souvent avec les yeux qu'avec les oreilles, fut ravi de voir, à la place de ce gros homme bourgeonné, un garçon de 24 ans, frais comme une rose, blond comme Phébus, bâti comme si Phidias s'en fût mêlé, un vrai fils des lagunes, bianco, crespo et grassotto. Il était trop ému pour bien chanter son premier air, mais sa voix magnifique, ses belles poses, quelques traits heureux et neufs, suffirent pour lui conquérir l'engouement des femmes et des indigènes. Le débutant avait de grands moyens, de l'avenir. Il fut applaudi à 3 reprises et rappelé 2 fois sur la scène après être rentré dans la coulisse, comme cela se pratique en Italie et à Venise plus que partout ailleurs. Ce succès lui rendit le courage. Et lorsqu'il reparut avec Hypermnestre, il n'avait plus peur. Mais tout l'effet de cette scène était pour Consuelo. On ne voyait, on n'écoutait plus qu'elle. On se disait « La voilà, oui, c'est elle. Qui ? L'Espagnole ? Oui, la débutante, l'amante del Giustiniani. » Consuelo entra gravement et froidement. Elle fit des yeux le tour de son public, reçut les salves d'applaudissements de ses protecteurs avec une révérence sans humilité et sans coquetterie, et entonna son récitatif d'une voix si ferme, avec un accent si grandiose et une sécurité si victorieuse, qu'à la première phrase, des cris d'admiration partirent de tous les points de la salle. « Ah ! Le perfide s'est joué de moi ! » s'écria la Corilla en lançant un regard terrible à Anzoletto, qui ne put s'empêcher en cet instant de lever les yeux vers elle avec un sourire mal déguisé. Et elle se rejeta au fond de sa loge en fondant en larmes. Consuelo dit encore quelques phrases. On entendit la voix cassée du vieux Lotti qui disait dans son coin « Amici miei, questo è un portento !» Elle chanta son grand air de début et fut interrompue 10 fois. On cria « bis !» On la rappela 7 fois sur la scène. Il y eut des hurlements d'enthousiasme. Enfin, la fureur du dilettantisme vénitien s'exhala dans toute sa fougue à la fois entraînante et ridicule. « Qu'ont-ils donc à crier ainsi ? dit Consuelo en rentrant dans la coulisse, pour en être arraché aussitôt par les vociférations du parterre. On dirait qu'ils veulent me lapider. De ce moment, on ne s'occupa plus que très secondairement d'Anzoletto. On le traita bien, parce qu'on était en veine de satisfaction. Mais la froideur indulgente avec laquelle on laissa passer les endroits défectueux de son champ, sans le consoler immodérément à ceux où il s'en releva, lui prouva que si sa figure plaisait aux femmes, la majorité expansive et bruyante, le public masculin, faisait bon marché de lui, et réservait ses tempêtes d'exaltation pour la prima donna. Parmi tous ceux qui étaient venus avec des intentions hostiles, il n'y en eut pas un qui hasarda un murmure, et la vérité est qu'il n'y en eut pas trois qui résistèrent à l'entraînement et au besoin invincible d'applaudir la merveille du jour. La partition eut le plus grand succès, quoiqu'elle ne fût point écoutée et que personne ne s'occupât de la musique en elle-même. C'était une musique toute italienne, gracieuse, modérément pathétique, et qui ne faisait point encore pressentir, dit-on, l'auteur d'Alceste et d'Orphée. Il n'y avait pas assez de beauté frappante pour choquer l'auditoire. Dès le premier entracte, le maestro allemand fut rappelé devant le rideau avec le débutant, la débutante, voire la Clorinda, qui, grâce à la protection de Consuelo, avait nasillé le second rôle d'une voix pâteuse et avec un accent commun, mais dont les beaux bras avaient désarmé tout le monde. La Rosalba qu'elle remplaçait était fort maigre. Au dernier entracte, Anzoletto, qui surveillait Corilla à la dérobée et qui s'était aperçu de son agitation croissante, jugea prudent d'aller la trouver dans sa loge pour prévenir quelque explosion. Aussitôt qu'elle l'aperçut, elle se jeta sur lui comme une tigresse et lui appliqua deux ou trois vigoureux soufflets, dont le dernier se termina d'une manière assez crochue pour faire couler quelques gouttes de sang et laisser une marque que le rouge et le blanc ne purent ensuite couvrir. Le ténor, outragé, mit ordre à ses emportements par un grand coup de poing dans la poitrine, qui fit tomber la cantatrice à demi pâmée dans les bras de sa sœur Rosalba. « Infâme, traître, bugiardo !» murmura-t-elle d'une voix étouffée. « Ta Consuelo et toi ne périrez que de ma main. » Si tu as le malheur de faire un pas, un geste, une inconvenance quelconque ce soir, je te poignarde à la face de Venise, » répondit Anzoletto, pâle et les dents serrées, en faisant briller devant ses yeux son couteau fidèle qu'il savait lancer avec toute la dextérité d'un homme des lagunes. « Il le ferait comme il dit !» murmura la Rosalba épouvantée. « Tais-toi, allons-nous-en, nous sommes ici en danger de mort. »« Oui, vous y êtes, ne l'oubliez pas !» répondit Anzoletto. Et, se retirant, il poussa la porte de la loge avec violence en les y enfermant à double tour. Bien que cette scène tragicomique se fût passée à la manière vénitienne dans un mezzo voce mystérieux et rapide, en voyant le débutant traverser rapidement les coulisses pour regagner sa loge, la joue cachée dans son mouchoir, on se douta de quelques mignonnes bisbilles. Et le perruquier, qui fut appelé à rajuster les boucles de la coiffure du prince grec et à replâtrer sa cicatrice, raconta à toute la bande des choristes et des comparses qu'une chatte amoureuse avait joué des griffes sur la face du héros. Le dit perruquier se connaissait à ces sortes de blessures et n'était pas novice confident de pareilles aventures de coulisses. L'anecdote fit le tour de la scène, sauta, je ne sais comment, par-dessus la rampe et alla se promener de l'orchestre au balcon et de là, dans les loges, d'où elle redescendit, un peu grossie en chemin, jusque dans les profondeurs du parterre. On ignorait encore les relations d'Anzoletto avec Corilla, mais quelques personnes l'avaient vue empressée en apparence auprès de la Clorinda, et le bruit général fut que la seconda donna, jalouse de la prima donna, venait de crever un œil et de casser trois dents au plus beau des tenori. Ce fut une désolation pour les uns, je devrais dire les unes, et un délicieux petit scandale pour la plupart. On se demandait si la représentation serait suspendue, si on verrait reparaître le vieux ténor Stefanini pour achever le rôle, un cahier à la main. La toile se releva, et tout fut oublié lorsqu'on vit revenir Consuelo, aussi calme et aussi sublime qu'au commencement. Quoique son rôle ne fût pas extrêmement tragique, elle le rendit tel par la puissance de son jeu et l'expression de son chant. Elle fit verser des larmes. Et quand le ténor reparut, sa mince égratignure n'excita qu'un sourire. Mais cet incident ridicule empêcha cependant son succès d'être aussi brillant qu'il eût pu l'être. Et tous les honneurs de la soirée demeurèrent à Consuelo, qui fut encore rappelé et applaudi à la fin avec frénésie. Après le spectacle, on alla souper au palais Giustiniani, et Anzoletto oublia la corilla qu'il avait enfermée dans sa loge et qui fut forcé d'en sortir avec effraction. Dans le tumulte qui suit dans l'intérieur du théâtre une représentation aussi brillante, on ne s'aperçut guère de sa retraite. Mais le lendemain, cette porte brisée vint coïncider avec le coup de griffe reçu par Anzoletto, et c'est ainsi qu'on fut sur la voie de l'intrigue qu'il avait jusque-là cachée si soigneusement. À peine était-il assis au somptueux banquet que donnait le comte en l'honneur de Consuelo, et tandis que tous les abbés de la littérature vénitienne débitaient à la triomphatrice les sonnets et madrigaux improvisés de la veille, un valet glissa sous l'assiette d'Anzoletto un petit billet de la corilla, qu'il eut à la dérober et qui était ainsi conçu. « Si tu ne viens me trouver à l'instant même, je vais te chercher et faire un éclat. Fusses-tu au bout du monde, fusses-tu dans les bras de ta Consuelo, trois fois maudite. » Anzoletto feignit d'être pris d'une quinte de toux, et sortit pour écrire cette réponse au crayon sur un bout de papier réglé, arraché dans l'antichambre à un cahier de musique. « Viens, si tu veux, mon couteau est toujours prêt, et avec lui mon mépris et ma haine. » Le despote savait bien qu'avec une nature comme celle à qui il avait affaire, la peur était le seul frein, la menace le seul expédient du moment. Mais malgré lui, il fut sombre et distrait durant la fête, et lorsqu'on se leva de table, il s'esquiva pour courir chez la corilla. Il trouva cette malheureuse fille dans un état digne de pitié. Aux convulsions avaient succédé des torrents de larmes. Elle était assise à sa fenêtre, échevelée, les yeux meurtris de sanglots, et sa robe, qu'elle avait déchirée de rage, tombait en lambeaux sur sa poitrine haletante. Elle renvoya sa sœur et sa femme de chambre, et malgré elle, un éclair de joie ranima ses traits en se trouvant auprès de celui qu'elle avait craint de ne plus revoir. Mais Anzoletto la connaissait trop pour chercher à la consoler. Il savait bien qu'au premier témoignage de pitié ou de repentir, il verrait sa fureur se réveiller et abuser de la vengeance. Il prit le parti de persévérer dans son rôle de dureté inflexible. Et bien qu'il fût touché de son désespoir, il l'accabla des plus cruels reproches et lui déclara qu'il venait lui faire d'éternels adieux. Il l'amena à se jeter à ses pieds, à se traîner sur ses genoux jusqu'à la porte et à implorer son pardon dans l'angoisse d'une mortelle douleur. Quand il l'eut ainsi brisé et anéanti, il feignit de se laisser attendrir. Et tout éperdu d'orgueil et de je ne sais quelle émotion fougueuse, en voyant cette femme si belle et si fière se rouler devant lui dans la poussière comme une madeleine pénitente, il céda à ses transports et la plongea dans de nouvelles ivresses. Mais en se familiarisant avec cette lionne domptée, il n'oublia pas un instant que c'était une bête féroce et garda jusqu'au bout l'attitude d'un maître offensé qui pardonne. L'aube commençait à poindre lorsque cette femme, enivrée et avilie, appuyant son bras de marbre sur le balcon humide du froid matinal et ensevelissant sa face pâle sous ses longs cheveux noirs, se mit à se plaindre d'une voix douce et caressante des tortures que son amour lui faisait éprouver. « Eh bien oui, lui dit-elle, je suis jalouse. et si tu le veux absolument, je suis pis que cela, je suis envieuse. Je ne puis voir ma gloire de 10 années éclipsée en un instant par une puissance nouvelle qui s'élève, et devant laquelle une foule oublieuse et cruelle m'immole sans ménagement et sans regret. Quand tu auras connu les transports du triomphe et les humiliations de la décadence, tu ne seras plus si exigeant et si austère envers toi-même que tu l'es aujourd'hui envers moi. Je suis encore puissante, dis-tu, comblée de vanité et de succès, de richesse et d'espérance superbe. Je vais voir de nouvelles contrées, subjuguer de nouveaux amants, charmer un peuple nouveau. Quand tout cela serait vrai, crois-tu que quelque chose au monde puisse me consoler d'avoir été abandonnée de tous mes amis, chassée de mon trône et d'y voir monter devant moi une autre idole? Et cette honte, la première de ma vie, la seule dans toute ma carrière, elle m'est infligée sous tes yeux, que dis-je, elle m'est infligée par toi. Elle est l'ouvrage de mon amant, du premier homme que j'ai aimé lâchement, éperdument. Tu dis encore que je suis fausse et méchante, que j'ai affecté devant toi une grandeur hypocrite, une générosité menteuse. C'est toi qui l'as voulu ainsi, Anzoletto. J'étais offensée, tu m'as prescrit de paraître tranquille, et je me suis tenue tranquille. J'étais méfiante, tu m'as commandé de te croire sincère, et j'ai cru en toi. J'avais la rage et la mort dans l'âme. Tu m'as dit de sourire, et j'ai souri. J'étais furieuse et désespérée. Tu m'as ordonné de garder le silence, et je me suis tue. Que pouvais-je faire de plus que de m'imposer un caractère qui n'était pas le mien, et de me parer d'un courage qui m'est impossible? Et quand ce courage m'abandonne, quand ce supplice devient intolérable, quand je deviens folle et que mes tortures devraient briser ton cœur, tu me foules aux pieds, et tu veux m'abandonner mourante dans la fange où tu m'as plongée. Oh, Anzoletto, vous avez un cœur de bronze, et moi je suis aussi peu de chose que le sable des grèves qui se laisse tourmenter et emporter par le flot rongeur. Ah, gronde-moi, frappe-moi, outrage-moi, puisque c'est le besoin de ta force. Mais plains-moi du moins au fond de ton âme, et à la mauvaise opinion que tu as de moi, juge de l'immensité de mon amour, puisque je souffre tout cela et demande à le souffrir encore. Mais écoute, mon ami, lui dit-elle avec plus de douceur et en l'enlaçant dans ses bras. Ce que tu m'as fait souffrir n'est rien auprès de ce que j'éprouve en songeant à ton avenir et à ton propre bonheur. Tu es perdu, Anzoletto, cher Anzoletto, perdu sans retour. Tu ne le sais pas, tu ne t'en doutes pas. Et moi je le vois, et je me dis, si du moins j'avais été sacrifiée à son ambition, si ma chute servait à édifier son triomphe. Mais non, elle n'a servi qu'à sa perte, et je suis l'instrument d'une rivale qui met son pied sur nos deux têtes. « Que veux-tu dire, insensé ? » reprit Anzoletto. « Je ne te comprends pas. » « Tu devrais me comprendre pourtant, tu devrais comprendre du moins ce qui s'est passé ce soir. » Tu n'as donc pas vu la froideur du public succéder à l'enthousiasme que ton premier air avait excité après qu'elle a eu chanté? Hélas, comme elle chantera toujours, mieux que moi, mieux que tout le monde, et faut-il te le dire, mieux que toi, 1000 fois, mon cher Anzoletto. Ah, tu ne vois pas que cette femme t'écrasera, et que déjà elle t'a écrasé en naissant. Tu ne vois pas que ta beauté est éclipsée par sa laideur. Car elle est laide, je le soutiens. Mais je sais aussi que les laides qui plaisent allument de plus furieuses passions et de plus violents engouements chez les hommes que les plus parfaites beautés de la terre. Tu ne vois pas qu'on l'idolâtre et que partout où tu seras auprès d'elle, tu seras effacé et passeras inaperçu. Tu ne sais pas que pour se développer et pour prendre son essor, le talent du théâtre a besoin de louanges et de succès, comme l'enfant qui vient au monde a besoin d'air pour vivre et pour grandir, que la moindre rivalité absorbe une partie de la vie que l'artiste aspire, et qu'une rivalité redoutable, c'est le vide qui se fait autour de nous, c'est la mort qui pénètre dans notre âme. Tu le vois bien par mon triste exemple. La seule appréhension de cette rivale que je ne connaissais pas et que tu voulais m'empêcher de craindre a suffi pour me paralyser depuis un mois. Et plus j'approchais du jour de son triomphe, plus ma voix s'éteignait, plus je me sentais dépérir. Et je croyais à peine à ce triomphe possible. Que sera-ce donc maintenant que je l'ai vu certain, éclatant, inattaquable? Sais-tu bien que je ne peux plus reparaître à Venise, et peut-être en Italie, sur aucun théâtre, parce que je serais démoralisée, tremblante, frappée d'impuissance. Et qui sait où ce souvenir ne m'atteindra pas, où le nom et la présence de cette rivale victorieuse ne viendront pas me poursuivre et me mettre en fuite. Ah, moi je suis perdue, mais tu l'es aussi, Anzoletto. Tu es mort avant d'avoir vécu. Et si j'étais aussi méchante que tu le dis, je m'en réjouirais, je te pousserais à ta perte et je serais vengée. Au lieu que je te le dis avec désespoir. Si tu reparais une seule fois auprès d'elle à Venise, tu n'as plus d'avenir à Venise. Si tu la suis dans ses voyages, la honte et le néant voyageront avec toi. Si, vivant de ses recettes, partageant son opulence et t'abritant sous sa renommée, tu traînes à ses côtés une existence pâle et misérable, sais-tu quel sera ton titre auprès du public? Quel est, dira-t-on en te voyant, ce beau jeune homme qu'on aperçoit derrière elle? Rien, répondra-t-on, moins que rien, c'est le mari ou l'amant de la divine cantatrice. Anzoletto devint sombre comme les nuées orageuses qui montaient à l'orient du ciel. Tu es une folle, chère Corilla, répondit-il. La Consuelo n'est pas aussi redoutable pour toi que tu te l'es représentée aujourd'hui dans ton imagination malade. Quant à moi, je te l'ai dit, je ne suis pas son amant. Je ne serai sûrement jamais son mari, et je ne vivrai pas comme un oiseau chétif sous l'ombre de ses larges ailes. Laisse-la prendre son vol. Il y a dans le ciel de l'air et de l'espace pour tous ceux qu'un essor puissant enlève de terre. Tiens, regarde ce passereau. Ne vole-t-il pas aussi bien sur le canal que le plus lourd goéland sur la mer? Allons, trêve à ces rêveries. Le jour me chasse de tes bras. À demain. Si tu veux que je revienne, reprends cette douceur et cette patience qui m'avaient charmée et qui vont mieux à ta beauté que les cris et les emportements de la jalousie. Anzoletto, absorbé pourtant dans de noires pensées, se retira chez lui. Et ce ne fut que couché et prêt à s'endormir qu'il se demanda qui avait dû accompagner Consuelo au sortir du palais de Giustiniani pour la ramener chez elle. C'était un soin qu'il n'avait jamais laissé prendre à personne. Après tout, se dit-il en donnant de grands coups de poing à son oreiller pour l'arranger sous sa tête, si la destinée veut que le comte en vienne à ses fins, autant vaut pour moi que cela arrive plus tôt que plus tard.